Bonjour et bienvenue au balado « Mieux connaître, mieux choisir », une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, vous permettant de découvrir plusieurs métiers du marché du travail.
Bonjour, bienvenue au podcast « Mieux connaître, mieux choisir ». Aujourd'hui, on reçoit Philippe Bayargeon, qui est charpentier menuisier. Donc, bonjour Philippe, merci d'avoir accepté l'invitation.
Salut.
Je suis également là, accompagnée de ma collègue Vicky Roy, conseillère d'orientation. Bonjour.
Allô. Donc, en fait, on pourrait y aller avec une première question. On aimerait savoir là, en quoi consiste ton métier?
Bien, je dirais que c'est assez varié. Je dirais même que c'est un des plus variés, c'est la construction. Parce qu'on part de la fondation jusqu'à la toiture, on peut faire pas mal de A à Z, là, à part comme l'électricité, la plomberie, les corps de métier plus spécialisés. Là. Mais en ce qui concerne la structure puis les revêtements, comme la toiture, l'extérieur puis tout ça, c'est pas mal le menuisier qui s'occupe de ces jobs-là. Que ce soit les petits travails ou les petites bâtisses ou les grosses, là, comme les gros les édifices à logement ou les maisons. Ou les petites rénovations aussi. Là. Fait que c'est assez varié, là.
Bien, en fait, quand tu dis que tu touches à tout, mettons, ça part de quoi, là? Vous allez commencer par la fondation, après ça, bon, j'imagine, ouais. Les murs, ces choses-là, là. Mais mettons, ouais. Si on y va par étapes, là, tu sais, okay. Touches à quoi?
Bien, dans le fond, il y a beaucoup de compagnies spécialisées, dans le fond, de charpentiers. Fait que le charpentier peut faire beaucoup de métiers, mais souvent, il y a plusieurs compagnies qui vont être séparés durant la construction d'une maison. Fait que comme faire la fondation de la maison, ben ça, c'est généralement une compagnie qui s'occupe de ça. Fait que c'est des menuisiers qui font ça. Après ça, on va monter le carré de la structure, le plancher, après ça, les murs, après ça, la toiture, qui est souvent une autre compagnie, mais il y en a des compagnies qui font toutes, là. Mais c'est ça. En général, comment ça fonctionne aujourd'hui, c'est pas mal ça. Fait qu'il va aller jusqu'à la toiture. Ensuite, ben là, on tombe à l'intérieur. On va faire l'isolation. On va poser les lattes pour qu'il va recevoir le gypse et tout ça. Puis rendu à cette étape-là, généralement, ben là, c'est les autres corps de métier qui arrivent. Ben, les divisions aussi, avant ça. Là. Isolation, division. Puis ensuite, on tombe avec les autres corps de métier comme électricien, plombier, ventilation. Les compagnies comme les armoires, tout ce qui est finition intérieure qui est sous-contractant vont passer à cette étape-là. Puis c'est souvent le menuisier qui s'occupe de gérer ces corps de métier-là. Ben, c'est l'entrepreneur général, mais le menuisier est là pour généralement comme faire fitter tout ensemble. Si quelqu'un comme un électricien a besoin de quelque chose de particulier, ben, c'est lui qui va y préparer. On pourrait dire la structure, là, s'il y a besoin, ou le plombier a besoin d'une affaire en particulier, un trou à telle place, ou qu'on y fasse une petite division pour ses tuyaux, quelque chose de même. Mais là, on va agir comme intermédiaire avec les autres corps de métier, jusqu'à temps que la plupart des corps de métier soient passés, électricien, plombier, ventilation. Là, on va tomber au gypse, qui est aussi, dépendant des compagnies, va être un autre, des fois, ça va être un autre sous-traitant, mais qui sont aussi des menuisiers. Fait que là, on pose le gypse. Après ça, on tombe à la finition. Fait que là, plancher de bois franc ou peu importe, là, céramique, les planchers, les escaliers, les fenêtres. Les fenêtres aussi, ça, c'est nous autres. Fait qu'à l'intérieur, ça ressemble à ça. C'est sûr qu'il y a d'autres sous-contractants encore là, comme le poseur de céramique, les poseurs de plancher de bois franc. Mais ça, tout le menuisier a le droit de faire tous ces travails-là. C'est aussi, dans le fond, dans le droit, là, parce que chaque corps de métier, comme l'électricien, n'a pas le droit de poser, normalement, de faire de murs. Il faut que tu aies des cartes de menuisier pour faire ça sur la construction neuve. Parce qu'il y a la construction aussi rénovation. Fait que là, après ça, c'est ça. Puis on va tomber à l'extérieur. Il y a tout le revêtement extérieur qu'on va pouvoir faire pour finalement tomber pas mal... c'est pas mal ça, je dirais. Là. C'est sûr qu'il y a tout plein de petites affaires au travers de ça, là, mais on peut faire des cuisines aussi. Mais ça, c'est généralement des compagnies très spécialisées aussi là-dedans. Là. C'est assez rare qu'on va faire ça. Là.
Dans le fond, de ce que j'en comprends, c'est que le charpentier menuisier va vraiment toucher à tout. Est-ce que, dépendamment, dans le fond, de quand vous sortez de votre formation puis tout ça, il y a un choix à faire en fonction, justement, il y a des compagnies qui font toutes, mais tu avais l'air à dire aussi qu'il y a des compagnies qui font certaines choses spécifiques. Est-ce qu'il y a un choix à faire, justement, dans qu'est-ce que tu préfères faire comme tâche, puis tu vas aller vers telle compagnie ou vers une autre, dépendamment de si toi tu préfères faire la fondation, les murs ou quoi que ce soit?
Oui, certainement. Pendant que tu as ton DEP, c'est sûr qu'on a le temps de toucher en généralement un peu à tout, mais je ne sais pas à quel point les gens sont capables de préciser ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Fait que c'est sûr que en sortant, moi, ce que je conseille, c'est d'essayer des compagnies qui font un peu tout, parce que tu apprends vraiment une expérience que tu vas pouvoir garder toute ta vie, là. Tandis que si tu fais, mettons, mais tu peux aussi choisir des compagnies plus spécialisées. Ça dépend de ce que tu aimes. T'sais, si tu as vu que toi, pendant le cours, tu aimais vraiment faire du bois franc, ben tu peux sortir de l'école puis aller directement dans une compagnie qui font juste ça, de la pose de bois franc. Tandis que si tu as vu que tu aimais un peu tout, ben tu peux essayer de choisir des compagnies plus variées. T'sais, un entrepreneur général qui fait des maisons neuves et qui fait de la rénovation, ben là, tu vas avoir. Mais oui, il y a quand même un choix à faire là, à regarder quand tu sors de l'école. Là, qu'est-ce que tu préfères, puis quel genre de compagnie irait le mieux avec toi?
Super. Puis pour poursuivre, là, ça ressemble à quoi une journée type là, quand tu rentres là, de bonne heure le matin? Parce qu'on sait qu'en construction, vous commencez tôt.
Oui.
Puis c'est quoi les défis qui sont associés?
Dans le fond, une journée type, c'est dépendant de la compagnie, mais souvent, on va à la shop où il y a tous les camions. On se rejoint là, on embarque soit dans un camion ou on va direct au chantier, là, ça dépend des places, là. Après ça, on arrive là. Des fois, il y a un petit speech, on regarde un peu où on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire durant la journée. Puis là, ben la journée commence. Fait qu'on part soit avec. Souvent, on est en équipe. Fait que avec notre équipier, on va aller chercher les outils qu'on a de besoin, les matériaux qu'on a de besoin pour. On s'installe pour commencer le travail qu'on a à faire. Ensuite, on fait le travail, peu importe lequel. Puis fin de la journée, ben on fait le ménage, on ramasse. Journée type, c'est pas mal ça. Mais c'est sûr que ça dépend de la job qu'on fait dans le milieu, mais c'est varié selon tout ce que j'ai expliqué tantôt, là. Mais c'est ça, fin de la journée, ben là, on regarde un peu ce qu'on a de besoin pour le lendemain ou pour la semaine qui s'en vient, les matériaux qu'on pourrait avoir de besoin, d'en parler au contremaître ou au chef d'équipe, pour pas que quand on soit rendu à faire le travail, il nous manque de matériaux. Ramasser les outils, puis après ça, bon, on en repart à la maison.
Dans le fond, au niveau de l'horaire, là, à quoi ça ressemble? Combien d'heures par semaine tu fais?
En moyenne, ça va être 40, ben, généralement 40 heures. C'est sûr que ça dépend un peu de la température. Quand il pleut, il y a des journées qu'il y a des travaux qu'on peut pas être à l'intérieur, fait que on va peut-être avoir une couple d'heures qui va nous manquer. Sinon, c'est du 7 à 3h30. Ça nous fait 8 heures par jour. Des fois, on fait de l'over un peu dépendant des travaux. Tu sais, quand on reçoit les poutrelles de plancher ou les trosses pour les toits, là, des fois, tu sais, si la livraison arrive à la fin de la journée, ben il faut finir d'installer pour que ça soit sécuritaire. Fait que, tu sais, on peut faire plus d'heures ou des fois, il y a des deadlines qu'il faut respecter. Fait qu'on fait une couple d'heures de plus. Fait qu'on est capable, généralement, d'aller rechercher notre 40 heures là, comme ça, là.
Puis, est-ce que tu es appelé à travailler davantage à l'intérieur ou à l'extérieur? Est-ce que tu es capable de mettre des pourcentages?
Ben là, je dirais que ça dépend vraiment du menuisier puis de la compagnie pour qui on travaille. Parce que c'est ça, on peut autant faire du bois franc qu'on travaille 100% à l'intérieur constamment ou plus de la charpente de maison qui est quasiment 100% à l'extérieur. C'est ça, je dirais que c'est très varié dépendant du type de travail qu'on effectue là.
Ça va vraiment dépendre de justement l'entrepreneur pour lequel on travaille pour justement, si on spécialise dans quelque chose qui c'est plus à l'intérieur, ben on va être plus à l'intérieur. Puis si c'est général qui fait de tout, ben là,
ouais.
ça touche au deux.
Ben, je pourrais dire un général qui fait de tout, c'est à peu près 80%, je dirais, entre 70 et 80% à l'extérieur. Parce que le temps de tout monter la charpente, puis tout, on en fait beaucoup plus dehors qu'en dedans quand même.
Puis, est-ce que vous utilisez de la machinerie ou des outils particuliers dans votre travail?
Oui, quand même. Tout ce qui est outils pneumatiques, comme les cloueuses à charpente, cloueuses à finition, toutes sortes de cloueuses. Là. Il y en a une variété quand même impressionnante. Là. Après ça, les scies pour couper les morceaux de bois, d'une coupe de sorte aussi. Sinon, il y a quand même des machines, dépendant des gros chantiers, il va y avoir des grosses machines comme des chariots élévateurs avec moques télescopiques ou des nacelles. Il y a ça aussi qu'on utilise quand même régulièrement, sur les gros chantiers particulièrement. Des drills, là, tout ce qui est un peu l'outil du bricoleur, le kit du bricoleur que tout le monde connaît un peu, là. Ça, c'est pas mal la routine, là. Ça ressemble à ça un peu.
Puis ça m'amène une question, justement, là. Est-ce qu'il y a des différences majeures entre les chantiers, mettons, plus petits comme construire une maison, puis les chantiers où est-ce que vous construisez, mettons, une tour à condo ou, un bloc appartement ou quoi que ce soit? Il y a toutes des différences majeures entre les deux?
Ben, je dirais que premièrement, il y a le salaire, parce que c'est divisé en secteurs, la construction. Il y a le résidentiel, le commercial, l'institutionnel, puis le génie civil. Le résidentiel, ça a changé un peu, mais aux alentours de 36 $, tandis que le commercial, on est tombé aux alentours de 39,50 $. Il y a quasiment 3,5 $ de différence entre les deux secteurs. Fait qu'aussitôt qu'on tombe en haut de 6 logements et plus, ou comme des grosses bâtisses, là, des édifices à bureaux, ces choses-là, on tombe au commercial ou génie civil. Ou institutionnel, ça, c'est les écoles. Fait que ça, c'est pas mal tous les mêmes prix, les gros chantiers. C'est le résidentiel, là, on est moins payé un peu. Quasiment 3,5 $ de moins, mais qui est quand même des bons salaires, là. Ça, c'est une des premières différences majeures. Sinon, c'est sûr que l'ambiance est différente, là. Les gros chantiers, c'est pas la même l'ambiance. Je dirais l'ampleur, là. Quand on fait une maison, on va être là peut-être 2-3 semaines. Tandis que quand on fait un édifice à condo, t'es là pendant des mois. Fait que c'est organisé différemment. Il y a des agents de CSST, il y a toutes sortes de monde, de personnes de plus qui gèrent il y a beaucoup plus de gérants, on pourrait dire, entre le menuisier puis l'entrepreneur général. Plus de gens pour planifier. Fait qu'on a affaire à plus de gens, un peu. C'est pas le même genre non plus de structure. Mais le menuisier, il finit par faire un peu le même genre de travail, là. C'est de l'installation de structures, que ce soit un 2x4 en bois ou en métal aussi, ben ça reste quasiment le même principe, là. Fait que c'est des petites différences au niveau de ces choses-là, là.
Puis, tu as parlé là, justement que des fois, il y avait plus d'intermédiaires au niveau de la gestion, là, surtout dans le secteur industriel. Toi, dans le cadre de ton travail, avec qui tu es appelé à collaborer?
Bien, on est appelé quand même à collaborer avec les électriciens, les plombiers, poseurs de ventilation, tu sais, pour concorder un peu pour pas qu'on soit tous à la même place en même temps, là. Mais c'est sûr que c'est généralement le contremaître ou le surintendant qui va s'organiser pour pas que ça arrive, ces choses-là, là. Fait que je dirais ça. C'est varié, là. Une maison, c'est sûr que le menuisier va avoir plus à faire au corps de métier que les gros chantiers, là.
Puis, de manière générale, est-ce que, parce que tantôt tu disais que vous travaillez en petite équipe quand même, est-ce que tu serais capable de quantifier un peu, mettre un pourcentage si tu travailles plus seul ou en équipe?
Je dirais 90% en équipe, là, parce que la plupart des travails se font plus facilement à deux. Fait que c'est plus payant aussi pour les entrepreneurs si on est deux, là. Parce que, tu sais, mettons qu'on est dans un échafaud, monter, descendre, c'est pas payant. Mais oui, je dirais 90%, là. La plupart des travails se font mieux à deux. Puis il y a aussi qu'on n'a pas vraiment le droit non plus d'être tout seul sur un chantier pour la CSST, là. Parce que si jamais il arrive quelque chose, l'entrepreneur pourrait être tenu responsable, là, de certains problèmes, là.
Donc, on peut dire que pour avoir l'intérêt là, au niveau de la charpenterie-menuiserie, il faut être ouvert à pouvoir travailler en équipe, puis il faut aimer ça également, là, travailler beaucoup en duo.
Oui.
Si on revient un peu, là, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu à quoi ça ressemble ton parcours scolaire professionnel?
C'est assez simple. Dans le fond, moi, j'ai fini mon secondaire, puis j'ai appliqué pour le DEP. On a fait un petit test psychométrique. Je ne sais plus s'ils en font aujourd'hui, mais c'est ça. Après ça, j'ai été accepté. Fait que J'ai fait le DEP qui était un an et demi dans ce temps-là. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a plus. Ça se fait en un an condensé. Moi, il y avait les deux options dans ce temps-là. J'ai préféré là, un an et demi parce que je voulais faire d'autres trucs pendant l'été. Voulez-vous que je parle un peu de toutes les choses qu'on fait dans le cours?
Oui, ben ça pourrait être une bonne chose. C'est une bonne idée. Okay.
Ben dans le fond, dans le cours, on touche un peu à tout. On va commencer par... Bon, on va commencer, c'est pas tout à fait en étape, là, mais on fait... on apprend des maths un peu, des cours de maths, cours de plans et de vie, apprendre à lire les plans. Il va y avoir les cours de fondation, cours de charpente, cours de toiture, cours de finition intérieure, poser du gypse. Ben, ça, c'est tout en finition intérieure. C'est sûr qu'il y a beaucoup de modules qui condensent plusieurs choses. Mais en gros, c'est ça, c'est toutes les étapes là, que j'ai nommées un peu des travaux qu'on fait là, sa construction. On voit pas mal toutes, mais relativement rapidement. Fait que c'est sûr qu'on ne devient pas des experts, là, mais on a une bonne base pour savoir où est-ce qu'on s'en va quand même quand on arrive à sa construction. Mais ils nous le disent à l'école, on apprend à peu près 50% à l'école, même si c'était moins pour qu'ils disaient, je pense, là, puis le reste, on l'apprend rendu sur le chantier. Là.
Fait qu'il s'assure, dans le fond, que vous ayez une base un peu dans tout, mais c'est ça, comme tu dis, vous ne devenez pas expert de tout. T'sais, vous avez non, une base, après ça, vous allez le perfectionner dans vos emplois.
Oui, exactement. Puis c'est pour ça aussi qu'on a trois apprentissages après ça à faire. Un coup qu'on sort du DEP, ben là, il faut avoir une garantie de 150 heures pour un entrepreneur. Dans le fond, il donne une lettre comme de quoi il garantit 150 heures de travail. Pour pouvoir commencer à travailler. Il faut que tu aies ça, sinon tu peux pas avoir tes cartes de charpentier menuisier. Fait que ça, c'est auprès de la CCQ, c'est la Commission de la construction du Québec. C'est eux autres qui gèrent tout ce qui est formation, puis comme tout ce qui a trait au règlement là, de chaque corps de métier. Là. Fait que nous, il y a trois sections d'apprentissage de 3000 heures pour devenir un compagnon. Comme charpentier menuisier. Les autres corps de métier, c'est différent, pas tout le même nombre d'heures. Mais pendant cet apprentissage-là, les salaires sont plus petits au début, puis ils augmentent tranquillement jusqu'à atteindre entre 36 et 39. Puis c'est ça le but un peu, dans le fond. Le restant de l'apprentissage qu'on n'a pas fait à l'école, bien, on le fait durant ce temps-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, des petits détails, tout plein de petites choses. Fait que, au début, c'est ça. Le salaire est moindre pour... Justement, qu'il y ait moins de pression au niveau de quand on commence de se donner le temps d'apprendre. Là. Puis tranquillement, mm-hmm. Ben là, on, après 2000 heures, on tombe à apprenti 2, après ça, apprenti 3. Puis rendu à compagnon, ben là, il y a un examen à faire qui est avec la CCQ aussi. Puis après ça, on devient compagnon.
Fait que c'est quand même un long processus, tu sais, malgré le DEP, tu sais, qui dure un an ou un an et demi. Après ça, tu sais, t'as quand même ton 150 heures, tes trois cartes de des apprentissages de 3000 heures que tu dois faire. Après ça, il y a l'examen. 2000
heures, total, ça fait 6000 heures avant de pouvoir faire l'examen.
OK, c'est 2000 heures par apprentissage.
Ouais. Excuse-moi, puis l'école, il compte pour 1350 heures environ. Ceux-là sont créditables. Fait qu'on, quand on fait le DEP, on sauve ces heures-là.
Versus okay. Quelqu'un qui passerait par une autre voie, peut-être pas les heures de formation créditées parce que la personne va apprendre directement sur le marché du travail.
Okay. Exactement. Puis cette section-là, ben, je ne sais pas si vous voulez que j'en parle, mais c'est les bassins dans le fond. On peut rentrer sans avoir fait de DEP, mais pour ça, il faut attendre que les bassins ouvrent. C'est quand que le taux de menuisier tombe en bas de 10%, si je me souviens bien. Dans le fond, la CCQ, c'est eux autres qui gèrent ça aussi, vont ouvrir les bassins, c'est-à-dire qu'ils vont permettre à tous les entrepreneurs d'engager n'importe qui sous condition d'une garantie de 150 heures encore là. Puis après ça, tu peux avoir tes cartes. Là, tu tombes apprenti 1, puis tu pars en bas de l'échelle. Puis pareil comme le menuisier qui a fait son DEP.
Puis ça dépend des corps de métier aussi. Il peut avoir des ouvertures, là, des bassins. En charpenterie menuiserie, mais ça peut être accessible pour d'autres corps de métier aussi là, dans la construction.
Oui, mais pas toutes. Comme l'électricien, électricité, plomberie, si je me souviens bien, on ne peut pas passer par les bassins, passer des choses comme trop spécialisées. Mm-hmm. Fait que c'est pas tous les corps de métier, mais quand même une bonne partie là, qu'on peut faire ça.
OK. Donc, il y a deux voies d'entrée vraiment dans le métier. Il y a les bassins, ouais. Puis il y a aussi le DEP là, qui
ça
prévise aussi des heures.
Ça me fait penser à une autre aussi. Dans le fond, rendu compagnon comme menuisier, là, c'est comme si on a, ça l'ouvre les portes à tous les autres corps de métier qu'on aurait accès par les bassins, dans le fond. Mais tu n'as pas besoin de passer par les bassins. Fait que si, mettons, moi, je suis rendu compagnon charpentier, j'aimerais ça devenir plâtrier. Ben, je peux, j'ai juste à me trouver un entrepreneur qui voudrait m'engager comme plâtrier, me donner ma garantie 150 heures, puis je pourrais. Mais là, il faut que je recommence l'apprentissage aussi comme plâtrier. En fait, apprenti 1, apprenti 2, je reprends le processus, mais pour avoir mes cartes de plâtrier, en ayant des cartes de plâtrier.
OK, c'est intéressant.
Mmh. Oui. Si, mettons, quelqu'un veut changer de corps de métier, il y a cette possibilité-là, un coup rendu compagnon.
Est-ce qu'il existe des conditions physiques particulières pour la charpenterie-menuiserie? Hein?
Je dirais que oui, mais tu sais, c'est quand même pas... C'est sûr que ça dépend des compagnies qu'on fait. Là. C'est sûr que comme faire de la structure de maison, ça demande quand même d'être relativement en forme. C'est sûr que pas besoin d'être capable de courir des marathons. Là. C'est juste une forme normale là, de pouvoir... Il faut grimper beaucoup dans les échafauds. Puis c'est sûr que ça vient aussi avec le temps, là, à force de faire le travail. Là. Fait que je dirais oui puis non. À force d'en faire, on développe les muscles qu'on a de besoin aussi. Là. On transporte beaucoup de matériaux, toutes ces choses-là. Fait que oui, quand même une forme en bonne forme. Là.
Puis si on revient au milieu de travail, est-ce qu'il y a des milieux quels sont les milieux dans lesquels un charpentier menuisier peut exercer? Est-ce qu'il y en a des moins connus, tu sais, qu'on ne penserait pas, mais que les gens pourraient se placer?
C'est un peu tout ce que j'ai nommé. Peut-être qu'il y en a que moi-même je connais pas, je dirais.
Ça se passe plus au niveau des secteurs, comme tu parlais tantôt, résidentiel, commercial et tout ça, là, ça se passe plus à ce niveau-là que ça pourrait être des secteurs où est-ce que tu peux travailler différent, dans le fond.
Comme je vous ai dit, chaque compagnie a un peu sa spécialité. Fait que c'est sûr que là, c'est choisir de. On peut changer de compagnie de temps en temps pour essayer différentes choses. Mais c'est pas mal qu'est-ce que consistait le métier. Le menuisier, c'est ça, il peut être assez varié. Mais il va en avoir beaucoup dans son DEP. Fait qu'il va savoir un peu tout ce qui est possible de faire pour le menuisier. Après ça, c'est de choisir les compagnies qui l'intéressent. Des fois, il veut essayer des nouvelles choses.
Puis, qu'est-ce qui t'a amené, toi, spécifiquement dans ce domaine-là, tu sais, à la fin de ton secondaire, là, qu'est-ce qui a fait en sorte que la charpenterie menuiserie, là, c'est un domaine qui t'intéressait?
C'est sûr que j'ai tant été quelqu'un qui aimait beaucoup bouger. Fait que ça, j'étais assez manuel. J'ai travaillé un peu avec des gens pas loin, tu sais, mes voisins, on faisait des patios, des affaires comme ça. Fait que c'est sûr que j'y ai goûté un peu avant. Fait que ça me donnait... envie de faire ça, dans le fond. Ça, je pouvais pas dire que j'étais sûr à 100% au début, mais ça me rejoignait sur quand même beaucoup de plans. Là.
Puis, si tu avais à mettre le doigt sur qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton travail, ça serait quoi?
Je dirais que c'est la variété. Le fait de pouvoir faire, justement, beaucoup de choses, puis ça sert beaucoup aussi rendu chez nous, dans le sens que je suis capable de réparer un peu tout ce qu'il y a dans une maison. Fait que j'aime le fait que ça soit varié. C'est ça qu'il y ait une semaine, on peut faire telle affaire. L'autre semaine, on peut faire complètement d'autres choses. Puis même dans une journée, on peut faire tout plein d'affaires. Fait que j'aimais quand même ça. C'est sûr que là, encore là, ça dépend des compagnies. Il y en a que c'est pas mal moins varié que d'autres. Fait que moi, j'ai choisi les compagnies qui faisaient que je pouvais développer ou aller plus dans le sens de ce désir-là que j'avais, là.
Y a-t-il un élément que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans ce métier-là, que tu es appris sur le marché du travail, qui t'a surpris?
J'avais quand même une certaine idée, là, vu que j'avais eu quelques expériences avant. C'est sûr que, mettons, moi personnellement, non, mais c'est sûr que de dire que la température, pour certaines personnes, ça peut être quand même quelque chose à considérer. Il y a des bonnes chaleurs l'été, puis l'hiver, il fait froid, mais on travaille quand même dans toutes sortes de conditions. Des fois, la pluie. Fait que peut-être des gens aimeraient ça savoir ça d'avance. que c'est quand même un métier ouais, assez physique pour certains corps de métier. Fait que c'est sûr, ça, des fois, ça peut être plus dur qu'on pense. C'est quand même des longues journées puis, qui peuvent être assez forçantes. Fait qu'on peut être assez fatigué le soir en chez nous. Non, c'est pas mal ça. Mettons que je pourrais dire comme conseil ou comme remarque les gens avant qu'ils commencent, là, qu'ils s'embarquent là-dedans.
J'ai comme l'impression, Philippe, que tes expériences de travail passées t'ont permis aussi de te faire une bonne idée, tu sais. Fait que peut-être d'encourager les gens à avoir des emplois, là, soit étudiants ou saisonniers dans le domaine. Ça permet d'avoir quand même une bonne vision là, du domaine.
Oui, ouais, c'est certain. C'est sûr que de faire, moi, c'est un peu ça aussi. J'ai fait mon DEP en 1 an et demi parce que je voulais aller travailler l'été dans le domaine un peu pour expérimenter à quelque part. Puis ça m'a confirmé quand même que c'est ça que je voulais faire, là. Fait que, mais oui, de faire des petits jobs d'été ou d'essayer d'être engagé. Parce que la rénovation, c'est pas régi par la Commission de la construction du Québec. Fait qu'il y a toujours possibilité de peut-être trouver un entrepreneur. En rénovation qui pourrait engager puis pouvoir essayer un peu avant, là, voir à quoi ça ressemble.
Puis, selon toi, ce serait quoi les principales qualités à avoir pour exercer ce métier-là?
Moi, je dirais que la débrouillardise, c'est quand même assez important parce que ça, des fois, on est dans toutes sortes de conditions. Les outils, on a, généralement, on a les bons outils, mais on n'a pas tout le temps nécessairement le bon outil pour exactement ce qu'on va faire. Fait que être capable d'innover un peu, de trouver la bonne méthode aussi pour ce qu'on a à faire. On part de zéro, puis on fait une maison. Fait que des fois, c'est ça, faut visualiser un peu, apprendre à se débrouiller avec qu'est-ce qu'on a pour faire fonctionner tout ce qu'on a à faire. Ça, c'est quand même une bonne qualité, une bonne capacité d'ajustement, je dirais, parce que les choses peuvent changer vite. Ce qui est écrit sur le plan, c'est pas tout le temps aussi facile à faire en vrai. Fait que d'être capable de s'ajuster à, c'est ça, à toutes
Les demandes.
bon, les demandes, les tangentes en tête, les variantes qui peuvent arriver dans un projet-là, puis toutes les sous-contractants, puis tu sais, de faire, c'est ça, être capable d'improviser, je pourrais dire. De pas tout le temps se fier juste au plan parce que ça marche pas tout le temps ce qui est écrit là, dans un sens, là. Tu sais, faut. Sur le plan, ils disent ça va là, mais comment le faire pour le faire rentrer là ou que ça se rende là? Ben là, ça, c'est au menuisier de trouver comment faire. Fait que ça, bonne capacité d'ajustement, apprécier être à l'extérieur parce que c'est sûr que c'est quand même une bonne partie du travail. Puis aimer le travail d'équipe.
Est-ce que tu es capable de nommer des valeurs qui ont qui t'ont mené vers ce choix professionnel-là?
Je dirais qu'ils m'ont mené vers là, peut-être pas, mais que j'ai pu découvrir ou que je me suis rendu compte qu'elle était quand même importante au travers du temps. Il y a une certaine détermination, tu sais, à atteindre un but, d'être capable de visualiser un but puis de réussir à l'atteindre. Parce qu'il y a des moments, c'est moins clair. Tu sais, quand on commence une maison, puis on. Faut visualiser où est-ce qu'on s'en va, avoir la détermination pour atteindre nos objectifs de la journée, puis de réussir ce qu'on veut entreprendre. Un certain souci du détail parce que ça paraît simple en vrai la construction, mais il y a beaucoup de petites choses importantes à savoir qui font la différence entre un bon menuisier, je dirais, puis un menuisier qui est, mettons, je sais pas, correct. On va dire dans le sens que c'est important d'apporter attention aux petits détails, parce que c'est ça qui va faire la différence au final. Puis avoir de l'entre-gens, parce qu'on est tout le temps avec plein de monde, on est en équipe, fait que d'aimer ça, être en gang.
Puis, une fois qu'on est devenu compagnon, est-ce qu'il y a des possibilités d'avancement ou de promotion?
Oui, ben c'est ça, on peut devenir chef d'équipe. Fait que celui qui s'occupe un peu de donner la ligne directrice à l'équipe, ça, il y a des fois, ça dépend des compagnies encore là. Ça, c'est pas comme écrit, là, c'est quoi les augmentations, là. Mais il peut y avoir certains avantages de plus, comme un camion, un peu plus sur leur paye. Là, il y a toutes sortes de possibilités. Après ça, il y a le contremaître qui est comme un peu plus général, que souvent, lui, il va gérer l'ensemble des équipes. Puis, on peut devenir surintendant aussi. Fait qu'encore là, c'est une autre possibilité de paye plus grande. Puis, il y a plus de responsabilités. Lui, il gère vraiment comme, on pourrait dire, l'entrepreneur général qui est celui qui starte les projets. Il va se fier sur son surintendant pour que chaque projet arrive à terme puis qu'il s'occupe de tous les problèmes qui peuvent arriver en cours de route. Là. Je pense que c'est pas mal ça. C'est sûr que toutes sortes de petites responsabilités diverses qui peuvent être prises en cours de route, qui peut peut-être amener certains avancements, mais ça dépend des places.
Puis évidemment, il y a la possibilité de partir là à son compte aussi, puis à devenir son propre entrepreneur.
Oui, c'est certainement une possibilité aussi.
Est-ce que tu considères que le placement après tes études, ça a été facile ou difficile, puis qu'est-ce qui l'a rendu? Qu'est-ce qui l'a facilité, puis qu'est-ce qui a été peut-être moins facile?
Pour moi, ça a été assez simple. Je passais en face d'un chantier qui n'était pas loin de chez nous, puis j'ai été porter mon CV, puis mon prix. J'ai pas eu besoin de chercher longtemps. Mais c'est sûr que c'est pas pareil pour tout le monde, mais je dirais que ces temps-ci, c'est vraiment pas difficile de se trouver un travail. Là, je vois des offres d'emploi à quasiment tous les jours, là, fait que, comme pour des charpentiers menuisiers. Fait que je dirais d'aller direct sur les chantiers, ça a tout le temps été quelque chose qui a été payant pour moi. C'est comme ça que j'ai quasiment tout trouvé mes jobs. Tandis que d'envoyer son CV, des fois, ça peut être un peu plus long, mais c'est une autre manière qui marche quand même très bien. Là. Mais ouais, de ne pas se fier aux premières apparences. Tu sais, il y a plusieurs compagnies sur la construction. Fait que un coup que vous êtes placé à quelque part, mettons que ça va pas bien les deux premières semaines, l'énergie, l'équipe, ça fit pas, ou le travail, t'aimes pas ça ou tu te sens pas bien, il y a plein d'autres compagnies sur la construction. Fait que de pas s'arrêter au premier échec, je dirais. Ça pourrait être un des conseils là, après les études. Là. Parce que moi, dans mon cours, y en a beaucoup qui ont abandonné à cause de ça, je dirais. C'est qu'ils ont essayé une compagnie, ça l'a pas bien fait. Fait qu'ils ont décidé de changer de branche tout de suite. Mais il y a probablement peut-être d'autres compagnies qui auraient été mieux pour eux. Là. C'est juste que c'est ça. Des fois, ça vaut la peine d'essayer une coupe avant de dire c'est pas fait pour moi. Là.
C'est vraiment l'employeur ou les milieux de travail aussi qui sont vraiment diversifiés. Donc, d'essayer plus qu'un, là, des fois, on va se trouver chaussure à notre pied.
Oui, exactement.
On arrive à la fin de notre entrevue aujourd'hui. Dans le fond, la dernière question qu'on aimerait te poser, c'est en fait, est-ce que la COVID-19, la pandémie, a eu des impacts sur ton métier? Puis, est-ce que tu penses qu'il y a des effets qui vont durer à long terme?
Ben, peut-être qu'ils vont encourager plus. Parce qu'avant, au début, on n'avait pas d'eau sur les chantiers, dans le sens pour se laver les mains. Là. T'sais, on avait comme nos. Fait que, il n'y en avait pas dans les toilettes. Tu sais, des toilettes chimiques, mettons. Mais il n'y avait pas de petits trucs. Tu avais du push-push là, purel, là, mettons. Mais à cette heure, c'est de l'eau. Tu as le droit à avoir de l'eau et du savon à part. T'sais. Fait que ces petites choses-là, je pense qu'ils vont rester quand même. T'sais, c'est devenu obligatoire d'avoir sur tous les chantiers, mais comme de l'eau. Puis du savon accessible. Avant, tu sais, c'était juste les gros chantiers qui avaient ça. Un petit chantier de maison, t'avais pas ça, là. C'est nous autres, tu sais, on s'organisait avec nos petites affaires pour se laver les mains ou faire ce qu'on a besoin, là. Ça, sinon, les masques, ça a été un petit bout, mais souvent, on est à l'extérieur. Fait que je sais pas à quel point ça l'a tenu, là. Puis là, c'est en train de s'en aller tranquillement. Fait que je suis pas sûr que ça va rester, là. Mais ça a été pas mal ça, les masques puis le lavage des mains comme plus régulier. Sinon, on avait le droit de travailler moins de personnes dans un endroit fermé, comme mettons un condo. T'es en train de faire la finition puis tout, on n'a pas le droit d'être plus que... Il me semble que c'était 2 par cubicule, par pièce fermée. Fait que c'est ça, ces choses-là qui ont comme été un peu plus... qui ont été différents. Puis aussi, le fameux test COVID, il fallait remplir à tous les matins. Là. Comme un petit... Il fallait checker à tous les matins si on avait des symptômes, ces choses-là. Là. Ça, j'ai l'impression que ça va rester un bout. Là. Ça a l'air parti pour ça. Fait que...
Et est-ce que ça a eu un impact également sur la charge de travail? Est-ce que la compagnie pour laquelle tu travailles a eu plus de contrats ou moins de contrats? Ou ça a resté pareil?
Concernant la charge de travail, pour le menuisier en tant que tel, plus ou moins, mais j'ai vu que pour mon boss, ça en était plus. T'sais, il y a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Les prix ont beaucoup, ils ont bondi dans bien des secteurs, le bois particulièrement. Fait que c'est sûr que pour eux, ça a été plus de choses à dealer avec. Là, fallait qu'ils planifient beaucoup plus d'avance. Avant, t'sais, les fenêtres, c'était peut-être un mois, mais là, c'était rendu 4 mois. Où il y a eu des pénuries comme l'aluminium, un bout, il n'y avait plus d'aluminium pendant l'été. Fait que là, c'est comme, on peut pas finir les chantiers, tu sais, au complet. Un bout, c'était les portes de garage, plus de portes de garage. Des affaires de même, qu'il y a comme, il y a eu des problèmes d'approvisionnement. Sûr, pour nous, en tant que tel, c'est pas nous autres qui gèrent ça. Fait que c'est sûr, c'est plus tannant un peu, parce que c'est le fun de pouvoir finir le chantier. Mais sinon, je dirais que ça ressemble à ça, ouais.
Super. Ben écoute, ça nous a fait grandement plaisir. La discussion là, tourne à sa fin. Merci beaucoup là, d'avoir accepté l'invitation. Puis c'est très généreux de ton temps là, aussi d'avoir participé.
Ça fait plaisir.
Au nom du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, nous tenons à remercier tous nos invités ainsi que tous nos auditeurs. Au plaisir de vous revoir dans un prochain balado. Restez à l'affût.